Collège de France, ce vénérable établissement d'enseignement et de recherche, institué par François Ier en 1530, lance un cycle de conférences sur l'Europe ce mercredi 24 mars 2021. L'historien et philosophe Luc Van Middelaar, qui est aussi l'ancienne plume du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, va y tenir plusieurs conférences accessibles en ligne sur le thème de l'Europe géopolitique, actes et paroles. Luc Van Middelaar, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission Europe du mur des potes. France, votre première conférence prévue à 19h30 ce soir depuis le site du Collège de France a pour thème « L'Europe face aux voisins russes et turcs, la frontière ». Alors, cela tombe très bien. Il se trouve que Emmanuel Macron a justement accordé une interview à la télévision française hier soir sur la Turquie. Et on y sent que le président français considère que ce pays n'est pas un partenaire très très amical ou en tous les cas si amical que cela pour l'Union européenne et pour la France. Alors j'ai envie de vous demander plus globalement, est-ce que la question turque à la frontière de l'Europe va forcer l'Union européenne à mieux se définir ?
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est déjà une évolution qui est bien en route. Mais je vois absolument le président Emmanuel Macron, comment lui, il observe la Turquie, surtout ces deux dernières années, qui devient vraiment la Turquie sous Erdogan, une puissance régionale, qui affirme sa présence même aux côtes libyennes, qui aide les Azéris contre les Arméniens dans le Caucase, donc qui joue un jeu qui n'est pas du tout de ce qu'on voyait ailleurs, puisque faut pas oublier, la Turquie est quand même aussi membre de l'OTAN, donc en principe, c'est un allié. Et la Turquie est aussi candidat depuis 1999 de l'entrée à l'Union européenne, même si de part et d'autre, disons, le désir s'est quelque peu estompé depuis lors. Ce qui est fascinant dans ce rapport avec la Turquie, voilà, c'est un grand voisin, un peu comme la Russie. Et ces voisins ne se comportent plus comme nous on pensait qu'ils allaient le comporter, c'est-à-dire petit à petit, un peu devenir comme nous. Hein, ils font plutôt un chemin inverse. Puisque ce sont des voisins, et puisque nous partageons justement une frontière avec eux, ce sera un peu le thème de ma conférence ce soir, comme vous venez de dire, ça nous oblige à regarder ces réalités en face.
D'autant plus qu'il y a des frontières qui sont un petit peu contestées. On l'a vu récemment, là, vous parliez de la Russie qui a pris la Crimée, récemment à l'Ukraine, où il y a des petits hommes verts russes qui vont dans l'est de l'Ukraine. On a vu également récemment, il y a quelques mois, la Turquie faire un petit coup de force à la frontière avec la Grèce, pénétrer quelques heures sur le territoire européen. On sait que la Turquie également domine la partie nord de Chypre, la République turque de Chypre. Justement, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des tensions qui sont très concrètes aux frontières de l'Union européenne avec ces partenaires-là.
Oui, et ce qui est nouveau, c'est que là, ce sont vraiment des tensions territoriales et qui nous obligent aussi à reconnaître que nous avons, en tant qu'Européens, des frontières extérieures communes. Et ça, ce n'était pas évident au début parce que, bon, prenons, on peut commencer avec l'Ukraine. Pour nous autres, disons, Européens de l'Ouest, moi, je suis néerlandais, comme vous l'entendez, l'Ukraine, quand même franchement très loin. Les pays voisins pour nous de l'Ukraine, c'est la Pologne, la Hongrie, la République slovaque, mais pas nous. Dans ces escarmouches à notre frontière orientale entre Ukrainiens et Russes, on s'est rendu compte que ce qui était en jeu dans ce conflit de 2014, c'était en fait la place de l'Ukraine en Europe entre, d'une part, l'Union européenne, ou plus globalement, les structures, disons, européennes et atlantiques, autant inclus, et d'autre part, la Russie. Et l'Ukraine était en quelque sorte prise en étau entre deux projets d'intégration, l'un de Bruxelles, l'autre de Moscou. Et donc l'enjeu, c'était vraiment aussi par rapport à nous, à qui étions-nous. Est-ce que nous, en tant qu'Européens, étaient capables de définir, dis même pas défendre, une frontière commune. Et je crois que lors de cette première grande crise avec la Russie, on s'est vraiment rendu compte, nous aussi, disons donc en Europe de l'Ouest, que l'Ukraine est un voisin à nous tous. Et c'est un peu pareil pour la Turquie, parce que là aussi, elle avait tendance à dire, voilà, la Turquie, c'est un peu le problème des Grecs et des Chypriotes. Et là, je trouve très bien que le président Macron a rappelé que, voilà, ce sont des partenaires de l'Union européenne, la Grèce et la République Chypre, qui sont en fait, je ne dis pas attaqué, mais au moins intimidé par une présence militaire, navale turque. Et donc, il a eu absolument raison l'été dernier, le président de la République, d'envoyer la force navale. Mais ce qui est aussi très révélateur par rapport à, disons, la position européenne traditionnelle, qui était un peu incarnée lors de cette crise par la chancelière allemande, Mme Merkel, c'est dire, bon, l'Europe ne veut pas prendre position, veut plutôt jouer un rôle de médiatrice. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a les Grecs d'un côté, il y a les Turcs d'autre côté. Mais pour moi, ça, ce n'est pas la position à prendre dans un tel conflit, parce que c'est bien notre frontière commune qui est en effet attaquée par la Turquie. Sinon, ce serait un petit peu que s'il y avait un conflit sur le continent américain entre le Texas, l'État américain, et le Mexique, qu'on demanderait à Washington de médier et de jouer un rôle de médiateur. Donc, et je trouve qu'avec cette nouvelle Turquie d'Erdogan, qui joue la politique de la puissance, il faut donc aussi répondre, entre autres, par des actes de politique de puissance.
Est-ce que, justement, sur la Russie, vous avez bien défini le fait qu'on avait tous, chaque pays européen avait un petit peu sa propre politique par rapport à la Russie. La Russie s'est perçue comme un voisin à la fois stratégique du point de vue énergétique par certains pays. Je pense notamment au fameux gazoduc Nord Stream 2 que l'Allemagne veut absolument, alors que ça induit beaucoup de choses du point de vue de l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et c'est perçu par d'autres États, notamment ceux les plus à l'est sur la frontière orientale de l'Union européenne, comme un ennemi, comme un pays qui pourrait potentiellement les réenvahir, puisqu'ils ont déjà été envahis par la Russie par le passé. Est-ce que, justement, cette cacophonie européenne par rapport à la Russie, c'est ce qui nous empêche d'avoir une véritable politique vis-à-vis d'un pays pourtant aussi important, aussi grand et aussi important du point de vue économique pour nous?
Oui, certainement, il y a une grande divergence d'intérêts et aussi d'expérience historique, comme vous venez de le rappeler, de tous nos pays avec la Russie. Pourtant, il ne faut pas sous-estimer aussi la capacité de l'Union européenne de trouver et de fournir une réponse unique. Et c'est exactement ce qui s'est passé après ces terribles événements de l'année 2014, avec une guerre civile en Ukraine, etc. C'est à ce moment-là que les Européens ont décidé, à l'unanimité, pardon, de prendre des sanctions assez sévères sur le plan économique contre la Russie. Et depuis, ouais, désormais quasiment 7 ans, ces sanctions sont renouvelées aussi à l'unanimité tous les 6 mois. Donc, nous posons là vraiment un front commun vis-à-vis du Kremlin. Mais alors, les divergences stratégiques, c'est à la fois, elles restent, c'est à la fois par rapport à l'expérience de la Russie, mais ça détermine aussi notre rapport aux États-Unis, en fait. Parce que voilà, il y a des Européens, vous avez parlé implicitement des Polonais et des Baltes qui se sentent en effet menacés par la Russie, par Moscou, et qui sont donc du coup très transatlantistes, atlantistes, pardon, hein, qui vraiment ressentent ce lien presque existentiel vis-à-vis de Washington comme grand protecteur. Tandis que d'autres pays européens, dont la France et l'Allemagne, mais sont pas les seuls, voudraient plutôt développer une autonomie stratégique européenne, y inclus par rapport aux États-Unis. Et c'est notre rapport à la Russie qui rend cela assez difficile. Hein, parce que tant que ces pays qui font aussi partie de notre Union, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi le produit de l'histoire que, voilà, nous sommes désormais, depuis bien une décennie ou plus, avec 27 pays dans cette union, il faut donc aussi leur trouver une place par rapport à notre politique russe.
Est-ce que la faiblesse de l'Union européenne n'est pas symbolisée dans ce qui s'est passé au moment où il y avait un conflit en Ukraine et l'Allemagne et la France ont un petit peu court-circuité l'Union européenne, en tous les cas les institutions européennes et les autres pays, en allant directement négocier avec Moscou au nom des autres partenaires européens, alors que en fait, ils ont défendu d'abord leurs propres intérêts à ce moment-là. Est-ce que, et c'était une image terrible, puisque en fait, pendant que Berlin et Paris négociaient, tous les autres ambassadeurs étaient réunis à Bruxelles en attendant de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que justement, on ne manque pas d'une Europe véritablement politique pour pouvoir avoir un dialogue apaisé ou plus construit avec la Russie et avec la Turquie qui ont tout intérêt à favoriser un pays par rapport à un autre, attaquer un pays par rapport à un autre, et jouer un petit peu l'équilibre et les dissensions au sein de l'Union européenne dans le dialogue qu'on a avec elle.
Oui, là, moi, je proposerais une interprétation un petit peu différente. Parce que pour moi, si vous voulez, l'Union européenne, justement, ce n'est pas uniquement les institutions bruxelloises. Ce n'est pas uniquement le président de la Commission, du Conseil européen, le haut représentant, etc., qui peuvent parler au nom de l'Europe. Et pour moi, l'initiative qu'avait prise à l'époque le président Hollande, main dans la main avec la chancelière allemande Merkel, d'aller négocier un cessez-le-feu pour l'Ukraine de l'Est, pour moi, c'était bien une initiative européenne. Ils étaient soutenus par leur pair, ils sont allés négocier ça, c'était digne d'un thriller politique ce qui s'est passé là dans le grand palais du dernier dictateur européen, Loukachenko, avec les deux présidents russes et ukrainiens, Poutine et Porochenko. Ils ont donc obtenu ce cessez-le-feu un peu ténu. Et en rentrant, disons, en Europe de l'Ouest, chez nous, en fait, ils ont atterri à Bruxelles, justement, puisqu'il y avait le même jour un Conseil européen où ils ont retrouvé leurs 25 ou à l'époque 26 collègues, chefs d'État ou de gouvernement. Ils ont débriefé en quelque sorte des pourparlers. Et donc ça s'est vraiment encadré dans ce contexte européen. Il y a eu d'autres moments comme ça. Et pour moi, il ne faut pas être trop formaliste là-dessus, je dirais. Surtout quand il s'agit d'une politique de la puissance, quand il s'agit de faire de la géopolitique. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire porter uniquement par les institutions européennes au sens strict du terme. Il faut aussi mettre en jeu, impliquer, faire porter la responsabilité par les États membres et notamment les grands États membres. Ça, je le dis même en venant d'un des pays qui sont moins grands et où je sais que parmi les compatriotes néerlandais, parmi les Belges où j'habite, il y a souvent beaucoup de méfiance vis-à-vis de ces moments où la force franco-allemande devient très visible. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre issue à ça. Quand vous avez affaire à Poutine, quand vous avez affaire au président Xi Jinping, auquel je parlerai la semaine prochaine, c'est aussi quand vous voulez parler au nom de l'Europe, en tant que bloc, il faut vraiment être sûr que vous parliez aussi au nom de la France, au nom de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Espagne, etc. Parce que sinon, ça ne pèse pas. Sinon, ça ne fait pas le poids.
Alors, vous faites bien de signaler que donc le 31 mars, nous aurons sur le site du Collège de France toujours une nouvelle conférence que vous mènerez sur l'Europe face à la Chine, la rareté. Le 7 avril, on aura l'Europe et l'Amérique, la solitude. Le 14 avril, l'Europe et l'entrée dans l'histoire, le récit. Des conférences qui vont être passionnantes à suivre, qui seront non seulement à suivre en direct sur le site du Collège de France, mais qui seront également podcastables sur le site du Collège de France. Vous pourrez les y retrouver. Et puis, j'invite également tous nos auditeurs à lire un livre que je n'ai pas encore lu, contrairement à tous les autres livres que je vous présente régulièrement. Cette fois-ci, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Toujours de Luc Van Middelaar, qui s'appelle Quand l'Europe s'improvise. Quand l'Europe improvise, pardon, excusez-moi, 10 ans de crise politique aux éditions Gallimard dans la collection du débat. Merci beaucoup, monsieur Van Middelaar, de votre temps. Et puis, écoutez, nous vous souhaitons une bonne conférence. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup de cette invitation fort aimable et à bientôt. Au revoir.